on est en train d'étudier l'étude de Jacques, puis dans l'étude de Jacques, on est en cours au chapitre 1, on a presque fini chapitre 1, puis là-dedans, on est en train d'apprendre le contexte de les premiers chrétiens, comment ce qui avait été, ça avait été difficile pour eux d'avoir été dispersés, d'être jetés dehors de leur ville dans laquelle ils vivaient, puis ils vivaient dans des grottes, ils vivaient dans des montagnes, sortis de toute modernité de cette époque-là, puis c'était difficile leur vie dans cette période-là, puis... Que ce qu'on a vu au début, c'est que là, il avait été encouragé par Jacques de dire, de regarder toutes les situations souffrantes que vous vivez présentement. Regardez ça comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi va produire de la patience. Jacques est en train de les encourager que malgré qu'ils étaient dans des difficultés incroyables, il est en train de les encourager à ne pas lâcher, à persévérer. Là, on est en train de voir ce soir qu'il est en train encore de les encourager parce que, dû aux souffrances qu'il vivait, il y en a qui se laissaient aller verbalement. Il devait chialer, critiquer, se plaindre. Il y en a peut-être qui ont maudit Dieu parce que là, il était tanné de le... Puis là, ce soir, le sujet qu'on voit dans ce chapitre-là, on tombe sur ce passage-là, c'est dans Jacques, le chapitre 1, le verset 26, qu'on est rendu, qu'on va lire ce soir. Je vais vous le lire. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » À première vue, ça a de l'air dur comme parole, mais quand on va voir dans le contexte qu'ils vivent, puis qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, on va s'apercevoir que c'est pas juste pour eux, parce que nous aussi, on est pareil comme eux. Le titre que j'ai donné à ce verset-là, c'est « La mise en pratique de notre foi exige le contrôle de notre langue ». Parce que c'est facile de dire qu'on a la foi, on aime Jésus, on est des chrétiens... Puis deux minutes après, c'est des plaintes, des critiques, puis des blasphèmes, puis des jokes sales, puis de toutes sortes de mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Des fois, c'est les plaintes, les critiques qui sont peut-être, on va dire, justifiées, dans le sens, les gens, ils souffrent, ils ont de la misère, puis là, ça se laisse aller, puis ça chiale. Puis dans d'autres moments, c'est juste pour faire des farces qu'on peut avoir des mauvaises paroles dans notre bouche, etc. Notre témoignage est détruit si notre bouche est sans retenue. C'est ce qu'il faut retenir ce soir. Si on dit n'importe quoi en tant que chrétien, peu importe ce que tu es en train de vivre présentement, si tu as des souffrances, tu as des problèmes, puis ce n'est que de la critique qui sort de ta bouche, puis du chiolage, puis du murmure, puis des méchantes paroles, des choses impures, peu importe ce qui sort de notre bouche, la minute qu'on a pu notre bouche en bride, là. En bride, ça veut dire comme un cheval. Là. Tu y mets un bride, c'est un mort que tu y mets dans la bouche, puis tu retiens, tu contrôles tout le cheval avec les brides. Mais il faut être capable, frères et sœurs, de contrôler notre bouche, parce qu'on peut-être que notre foi est nulle devant Dieu à cause de toute la gravité des paroles qui peuvent sortir de notre bouche dans une journée. Le début de ce verset-là, il dit « Si quelqu'un croit être religieux. » C'est sûr que je pense surprendre quelques-uns, surtout sur Internet, parce que sur Internet, je vois souvent ça. « Ah, nous les chrétiens, on n'est pas des religieux. On a une relation avec Dieu. » Fait qu'on essaie toujours de rejeter le mot « religion », parce qu'on ne veut pas dire qu'on a une religion, on veut dire plutôt qu'on a une relation avec Dieu. Mais ce qu'il faut savoir ce soir, qu'une relation avec Dieu t'amène à vivre une religion. La religion, le sens du mot « religion », c'est « crainte ou adoration de Dieu ». Ça veut dire, le mot que là, il était traduit par « religieux », c'est d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir de l'adoration, vouloir aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de vouloir se mettre à genoux devant lui, se prosterner, parce que c'est ça l'adoration. Mais vouloir craindre un Dieu, puis vouloir se prosterner devant, c'est de vouloir aussi le servir. Puis quand tu sers Dieu, mais tu es un homme religieux. Ça veut dire aussi trembler devant Dieu, puis être craintif devant Dieu. Fait qu'un homme religieux, il dit, si quelqu'un croit être religieux, si quelqu'un croit que la crainte de Dieu, si quelqu'un croit qu'il est en train de servir Dieu, ben c'est ça qui est important de réaliser, que vous êtes tous des gens religieux, dans le sens que vous avez tous accepté d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir un dévouement pour Dieu, de vouloir vous prosterner devant Dieu, de vouloir servir Dieu. Est-ce que vous avez fait ce choix-là?
Oui.
Donc, on croit qu'on veut le suivre, on veut le servir. Mais si quelqu'un croit qu'il a la crainte de Dieu, parce que c'est ça qui est le point, on est-tu des gens qui ont la crainte de Dieu? La Bible parle de l'importance d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans le sens de respect. Tu crains Dieu, là, mais ça t'amène à avoir du respect pour ce Dieu-là. Si tu n'as pas de crainte, tu es un effronté. Tu es une personne qui peut dire n'importe quoi, puis ça ne dérange pas. Mais si tu es un homme religieux, tu vas avoir du respect pour ton Dieu. Tu ne diras pas n'importe quoi de ta bouche. Tu ne seras pas un effronté. Voyez-vous que quand tu vas avoir la crainte de Dieu, tu vas vouloir aussi le respecter. Faire attention à ce que tu fais. Faire attention à ce que tu penses, parce que Dieu, il entend toutes nos pensées. Faire attention à ce que tu dis, parce qu'il est témoin, puis il voit toutes les paroles qu'on dit, puis nos actions aussi, il les voit. Même si tu es en noirceur chez vous, tu es tout seul dans ta chambre, dans noirceur, il te voit comme si ça serait en plein jour. Il nous voit bord en bord. Il sait tout le nombre de cheveux qu'on a. Il connaît nos pensées, il connaît nos paroles. Avant même qu'on ouvre la bouche pour les prononcer, il sait déjà tout ce qu'on va dire, tellement qu'il est puissant, ce Dieu-là. Avoir la crainte de Dieu, c'est d'avoir un respect pour faire attention quand on marche devant lui. Dans Romains 3, le verset 16, mais c'est un petit peu plus long peut-être au verset 13, mais moi je vais vous lire de 16 à 18, ça vous parle des gens dans le monde qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas ce respect-là. Ça nous dit, ça commençait, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Puis il rouvre la bouche comme un sépulcre ouvert. Un sépulcre, c'est un tombeau. Les gens dans le monde rouvrent la bouche comme si ça serait un cercueil que la mort est en train de pourrir dedans. C'est ça qu'il dit qu'on a dans notre bouche. Un mort en décomposition, nos paroles mauvaises qui sortent quand tu connais pas Dieu. Puis ça arrive au verset 16, il dit « La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Des gens dans le monde vivent tout croche, nous autres aussi, quand on était dans le monde, on vivait tout croche, parce qu'on n'avait pas la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ne marchaient pas tout croche? Aucun. On marchait tous tout croche, dans désobéissance, dans des choses qui offensaient Dieu, parce qu'on n'avait pas la crainte de Dieu. Mais Dieu veut nous apprendre la crainte. Pas la crainte, puis avoir peur de tout le temps se faire frapper à coups de bâton, mais d'avoir une crainte qui respecte. Parce que lui il est Dieu, puis moi je suis une créature. Lui, c'est celui qui va nous juger à la fin, puis moi je suis celui qui va se faire juger. Même si on n'est pas condamné avec le monde, parce qu'on est enfant de Dieu, on risque de subir des jugements du Seigneur sur cette terre. Il peut nous serrer à vis pour qu'on s'assie tranquille, mais on n'est pas obligé d'attendre de se faire serrer à vis pour pouvoir rester tranquille, puis le respecter, puis de parler, puis d'avoir des pensées pures, des paroles pures. La parole de Dieu nous demande de poursuivre notre sanctification en craignant Dieu. On voit ça dans 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ça nous dit, vu qu'on a de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Fait que Dieu veut qu'on le craigne, puis il veut qu'on, vu qu'on pense à le craindre, à avoir du respect pour lui, mais il veut que tu continues à te sanctifier. Il veut que tu continues à te purifier, à purifier tes pensées, à purifier ta bouche puis tes actions, parce qu'on est encore devant Dieu, puis on reste toujours, si on n'a pas la crainte de Dieu, de finir par recevoir, de te faire serrer à la vis par le Seigneur. Des fois, moi je me rappelle quand mon père me pognait par un bras quand j'étais jeune, « Hey, viens t'asseoir ici. » Là, je m'assisais sur une chaise parce qu'il me pognait par un bras. Puis ça faisait mal. Là, tu t'assis sur la chaise, puis là, tu pleures parce que ça l'a fait mal. Puis tu n'étais pas content.
Puis 5 minutes après, tu recommences.
Des fois.
Bon,
5 minutes.
Dans mon cas,
Mais on voit que des fois, ça fait du bien de se faire asseoir sur une chaise. Des fois, Dieu pourrait nous asseoir sur une chaise. Il ne faut pas attendre d'être assis sur une chaise par Dieu. Parce que des fois, c'est nous pogne, ça peut faire mal. On est mieux de marcher dans la crainte de Dieu, puis de respecter Dieu, on évite les problèmes.
Amen.
Si nous voulons démontrer notre respect à Dieu, nous devons avoir de la retenue dans nos paroles. Parce que c'est ça qu'on est en train de lire. Si quelqu'un croit être religieux, si quelqu'un croit avoir de la crainte de Dieu, sans retenir sa langue en bride, il faut toujours faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Dans Matthieu 12, le verset 35 à 37, Jésus est en train de parler. Il dit, « L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Savez-vous que la première place que Dieu va juger, c'est nos paroles? Il y a des gens, moi j'ai pas le temps d'aller à Jésus, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. On pose des pamphlets des fois, puis c'est ça qu'on se fait répéter, qu'on se fait dire. Puis, il se moque. Il voit le pamphlet qui est marqué, c'est le cadeau de Dieu, d'avoir la vie éternelle par Jésus. C'est ce que je dis quand je donne le pamphlet pour expliquer cela. Je lui dis que c'est pour avoir la vie éternelle, un cadeau de Dieu. Ces paroles-là, c'est rejeter ce qu'ils entendent. Il y en a d'autres qui vont, « Ah oui, merci. » Puis là, ils vont vouloir en apprendre plus. Puis ils vont arriver aux choses qui vont dire, « J'accepte Jésus comme mon sauveur. » Mais là ils confessent de sa bouche le Seigneur Jésus. Voyez-vous, par nos paroles, on peut être en train de renier Dieu, puis par nos paroles, on peut être en train de l'accepter et de le recevoir. Les gens vont être jugés selon leurs paroles, pas juste d'avoir accepté, parce que tu peux l'avoir accepté, puis le lendemain matin, tu peux être en train de le renier de la manière que tu vis. C'est ce que Jacques essaye de dire aux chrétiens dans la dispersion. Il dit, tu peux dire que tu te crois religieux, tu te crois que tu as la crainte de Dieu, puis tu n'es pas capable d'avoir une bride à ta bouche. Les gens qui sont pas francs devant Dieu, ils n'avanceront pas dans le Seigneur. Quand que je dis d'être franc, ça veut dire éliminer toute forme de menterie. Dans le psaume 140, le verset 11, ça nous dit, « L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. » Si ta langue, t'as pas ta langue en bride, puis tu passes ton temps à compter des menteries, mais tu t'affermiras pas dans le Seigneur. Tu grandiras pas, tu vas tourner en rond, tu vas rester comme que tu étais. Le mensonge prononcé de notre bouche est un très grave péché. Saviez-vous que c'est un péché? C'est un des 10 commandements de Dieu de ne pas dire de faux témoignages. Quelqu'un qui pêche en comptant des menteries tout le long de sa vie, il n'a pas sa langue en bride, mais il n'y aura pas de croissance dans le Seigneur. Il va rester comme qu'il est là, puis il est en train de se caler. Dans le Proverbe 15, le verset 2, « La langue des sages rend la science aimable. » Quand tu entends quelqu'un qui est sage parler, puis qui explique des choses, mais on dirait que la science, c'est le fun d'écouter ça. Hein? Et la bouche des insensés répand la folie. Voyez-vous qu'il y a une comparaison entre les deux types de bouche qu'on peut avoir. Une bouche qui répand de la sagesse, qui ça rend les choses aimables, puis il y a la bouche qui répand des folies. Tu peux dire que tu as la crainte de Dieu, si tu n'es pas capable de tenir ta langue en bride, puis tu répands des folies, tu es en train de tout détruire ton témoignage de chrétien. Dans le Proverbe 12, le verset 18, « Tel qui parle légèrement, » légèrement, ça veut dire sans faire attention à ses paroles, « blesse comme un glaive. » La personne qui n'a pas de contrôle, là, puis elle parle légèrement, puis elle lance des insultes, puis des craques à tout le monde. Lui, il trouve ça drôle, mais l'autre, que lui, ça l'a blessé comme un coup de poignard, il rit pas de tout là. Il y a de la peine, il y a de la souffrance. Les paroles méchantes qui sortent, supposément des fois pour rire, ça blesse comme un épée qui transperce l'âme. Fait que t'as beau dire que t'as la crainte de Dieu, puis tu aimes Dieu, si t'es pas capable de tenir ta langue en bride, puis tu frappes les autres avec tes jokes stupides, dans un sens, tes jokes plates, t'es en train de lancer tes poignards, t'es en train aussi en même temps de détruire ton témoignage de chrétien. Sans compter aussi ceux qui enseignent des faussetés, là, qui enseignent des fausses doctrines, c'est encore de leur bouche qui sortent toutes sortes de paroles qui sont pas bibliques. C'est encore pire. Mais sont toutes aussi graves parce que ça a tout détruit le témoignage de cette personne-là. Mais une personne qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui enseigne des fausses doctrines, ça nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, si on voit ça dans 1 Timothée 6, le verset 3, puis s'il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, c'est quoi, sont où les saintes paroles de notre Seigneur? Dans notre Bible. Il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, puis il ne s'attache pas aux paroles de notre Seigneur, le saviez-vous qu'il faut s'attacher aux paroles de notre Seigneur? La Bible, ça devrait être la chose la plus importante à lire et à méditer, à réfléchir, à apprendre par cœur, puis être capable si on a l'occasion, de laisser sortir quelques versets par notre bouche, qui serait une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines puis s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, parce que la parole du Seigneur, c'est une doctrine d'être pieux. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui louange son Dieu, c'est quelqu'un qui sert son Dieu. Son cœur, c'est de vouloir servir Dieu. Ça veut dire un pieux, pas un piquet, un pieux, c'est une personne qui prie. Amen. Bon, mais ça, c'est la doctrine du Seigneur. S'il n'y a pas ça, ce cœur-là, il dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, puis qu'il n'est pas attaché à la parole de Dieu, puis vouloir servir Dieu, s'il n'y a pas ça, mais il ne sait rien. Puis c'est juste un enflé d'orgueil. Ça l'impressionne pas Dieu si on enseigne toutes sortes de faussetés. On était mieux de rien dire que de dire des mensonges dans nos doctrines quand on explique quelque chose du Seigneur. Ceux qui enseignent ça, ils ont manqué l'occasion de se taire. Des fois, on manque l'occasion de parler, mais des fois, on manque l'occasion de se taire. Ou comme, encore dans les paroles, qu'est-ce qui peut sortir de méchant? C'est les plaisanteries à deux sens. à double sens. Là, ça veut dire quand que ça, tu fais une joke, puis ta joke, c'était pour penser au sexe en même temps. Tu sais, c'est ça, là, les expressions québécoises. Mais on en parle dans la parole de ça, puis ça fait partie de ce qui ne devrait jamais être dans la bouche d'un chrétien. Dans Éphésiens 5, le verset 4, « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Parce que j'ai oublié de mettre l'autre verset avant, ça parlait d'impudicité puis tout ça. Il faut faire attention dans notre bouche, les propos insensés, les plaisanteries qui sont pas saines. C'est ça qui est le point, là. Tu peux dire, je suis un homme religieux, je suis un homme qui craint Dieu, je veux servir Dieu, puis si de ta bouche sont toutes ces impuretés-là, ta foi vaut zéro. Dans Ecclésiaste 5, si on va le voir un petit peu plus loin, notre foi est zéro. Dans Ecclésiaste 5, 2, ça nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Aucune parole mauvaise. S'il y a lieu... Non, c'est... Non, j'ai lu sauté un verset. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, puis toi, c'est sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voyez-vous, les exhortations du Seigneur, tant qu'à dire de quoi, on est mieux de rien dire que de dire, faire étalage de choses qui sont pas belles. Pour avoir un bon témoignage, il faut avoir de bonnes paroles dans notre bouche. Dans Éphésiens 4, 29, ça nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. » N'est-ce pas que si on se parle du Seigneur, puis on se bénit, que notre conversation va être encourageante, puis notre témoignage va être bon. Puis la dernière partie du verset qu'on est en train de lire, parce que on est toujours en train d'étudier Jacques 1, 26, ça nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, qu'est-ce qu'on a à dire en trompant son cœur? Ça se peut-tu qu'on peut être chrétien et qu'on est en train de se tromper nous-mêmes dans la manière qu'on agit pas en chrétien? On pense qu'on est chrétien. Or, je crois être religieux, je crois que j'ai la crainte de Dieu, mais je suis en train d'agir complètement en contraire. Ça peut-tu arriver?
Oui.
Oui. Jacques, un petit peu plus avant, là, dans là, quelques versets au-dessus, là, d'où ce qu'on est en train de lire, il leur avait dit de mettre en pratique la parole, puis de pas juste se borner à l'écouter, puis en se trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Ça se peut qu'un chrétien raisonne mal, puis qu'il se trompe lui-même. Il est en train de faire, sans s'en rendre compte, il est en train de faire exprès pour que ça aille mal dans sa vie. Il est en train de détruire son témoignage, il est en train d'agir en dehors du chemin de Dieu. Il voit des versets qui disent « faites pas telle chose ». Puis là, il essaye de trouver une manière de comprendre le verset pour pas l'avoir à le mettre en pratique. C'est vrai, ça.
Comme la fornication.
C'est ça. Il veut coucher avec l'autre fille. Puis ce chrétien-là, il cherche dans la Bible des versets qui essaieraient de l'encourager à coucher avec l'autre fille. Quand que la Bible, il y a plein de versets qui disent « Tu fais pas ça. T'attends d'être marié. » Là, j'ai donné un exemple, mais des excuses pour faire... « Ah, mais ça fait rire tout le monde. Tu te rends pas compte que tu as blessé plusieurs personnes avec tes paroles? » À quelque part, il faut arrêter d'avoir toujours une excuse pour se justifier de continuer à pratiquer les mauvaises affaires. Il dit « Lâchez de vous tromper par des faux raisonnements, puis mettez-la en pratique, la parole. » C'est ça que Jacques a enseigné. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que quand tu sors des platitudes, c'est parce que ta tête remplie de platitudes. Si tu sors des impuretés de ta bouche parce que tu as la tête remplie d'impuretés. Si tu parles rien que d'argent, c'est parce que tu as la tête remplie avec à penser à l'argent. La bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce que tu as comme méditation dans ta journée? Si tu voulais savoir ce que quelqu'un a comme méditation, faites juste écouter ce qu'elle dit, vous allez le savoir à quoi qu'elle pense. Parce que de sa bouche, il sort tout ce qu'elle a dans son cœur. Fait que si c'est rien que des platitudes, des craques, des insultes, des paroles méchantes, bien c'est ça qu'elle a dans son cœur. Elle tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je relis encore le verset qu'on est en train d'étudier. Si quelqu'un croit être religieux, il pense qu'il a la crainte de Dieu, mais il ne tient pas sa langue en bride, mais il se trompe en trompant son cœur. Mais Jacques, il dit, la religion de cet homme est vaine. Quand il parle de la religion de cet homme, là, mais son adoration religieuse, sa vénération, son culte qu'il peut dire qu'il est en train d'offrir à Dieu, son service pour Dieu, tu as beau avoir des moments où tu es en train de servir, mais si tu sors de l'église puis tu commences à parler de toutes tes affaires pourries, parce que c'est des affaires pourrites aux yeux de Dieu, mais dis, ta religion est vaine. Ta pratique religieuse est vaine. Ta foi est vaine. Ton mode de vie est vain. Vain, là, ça veut dire dépourvu de force, de vérité, de succès, de résultat. C'est inutile. C'est une foi, un service devant Dieu qui est inutile, qui est sans but, qui est vain, qui est vide. Tu n'as aucun fruit dans une vie comme que tu es en train de vivre si tu ne fais pas attention à tes paroles. Tu as beau te croire un homme religieux, si tu vis tout croche en disant n'importe quoi, ta foi vaut zéro. Comme Jésus a déjà enseigné que des gens qui suivent leur religion, leur manière de voir la vie, plutôt que de suivre la parole de Dieu. Puis c'est grave, parce que les résultats, ils sont graves. Dans Matthieu 15, 8 et 9, ça dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur, il est détourné de moi. » C'est Jésus qui a dit ça. « Ce peuple m'honore des lèvres. »« Oh Seigneur, t'es bon, t'es grand, mais dans le cœur, il n'est même pas là. » Il est ailleurs, dans d'autres choses, dans toutes les autres choses, sauf qu'avec Dieu. Puis là, Jésus a dit, c'est en vain qu'il m'honore. Ça sert à rien, ce culte-là. Toutes les paroles qu'ils ont dit, là, oh merci, ça, c'est en vain, ça ne sert à rien. Puis Dieu ne l'a même pas agréé. Parce que le gars, il n'est pas un vrai, il n'est pas franc, il n'est pas... C'est un gars, c'est un acteur, il fait semblant de jouer le rôle de chrétien pendant qu'il est à l'église, puis quand il ressort dehors d'église, il redevient dans son rôle normal et naturel, son rôle d'un pervers ou un menteur ou un méchant. En réalité, il est comme qu'il était avant de venir au Seigneur. Peut-être un petit peu moins pire, mais ça l'a pas changé, il est pareil comme avant. Devant Dieu, ça n'impressionne pas personne. Ça ne l'impressionne pas. Il voit notre cœur. Il voit si vraiment on est repentant et qu'on veut changer de vie. Si tu veux avoir de l'impact quand tu es chrétien, il faut que tu sois vrai dans ta conduite. Il faut que tu arrêtes de dire des sottises, des choses qui ne sont pas de Dieu. Il faut dire des belles paroles qui communiquent des grâces à ceux qui les entendent. Puis si on n'a pas de paroles de même dans notre bouche, mais commençons à méditer la parole, fait que là, dans notre cœur, on va avoir des paroles qui vont sortir. En méditant la parole de Dieu, les paroles vont sortir, puis là, on va commencer à bénir le monde. Peut-être qu'il faudra remplacer nos pensées par la parole de Dieu.
Amen.
Ça sera peut-être une bonne affaire. Je vais juste relire le verset, mais dans la Bible en français courant. Bible en français courant, c'est plus facile à lire. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. C'est ça que Jacques vient de nous expliquer. Prions. Seigneur, je te remercie de t'avoir révélé à chacun de nous. Pour qu'on puisse te connaître. Pour qu'on puisse connaître ton salut à travers ton fils Jésus. Qu'on puisse connaître ton amour, comment tu nous as aimés, comment tu as tout accompli pour qu'on puisse être sauvés. Merci de nous révéler ta parole qui fait qu'on va comprendre les sentiers de la justice. De marcher dans un sentier qui est juste devant tes yeux. Apprends-nous, Seigneur. Remplace nos pensées. Aide-nous à remplacer nos pensées par ta parole, à méditer ta parole, à avoir notre cœur rempli de louanges, à avoir notre cœur rempli de prières, afin que de notre bouche puisse sortir que de belles paroles qui vont édifier les gens. Merci du travail que tu vas faire pour nous changer, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises paroles qu'on a pu prononcer. Et on te demande de nous purifier par le sang de Jésus. Merci de ce que tu vas faire en nous, dans le nom de ton fils Jésus. Amen.